Voilà, je vous propose de faire une lecture, d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1er, les 5 premiers versets. Livre de Ruth, chapitre 1er, les 5 premiers versets, ou plutôt les 6 premiers versets. Livre de Ruth qui est une histoire assez incroyable, qui est pleine d'espoir, et on a besoin d'espoir dans notre monde. Hein ? Et au-delà de l'espoir que ce livre nous donne, nous savons que la Bible nous donne plus que l'espoir puisqu'il nous donne de l'espérance. Autant l'espoir est ponctuel, autant l'espérance, elle est éternelle. Et il faut distinguer les choses, mais un peu d'espoir, ça fait pas de mal non plus. Hein ? Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Malon et Kilon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi tous les deux et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Amen. Ce texte, même si à première vue il paraît bien sombre, lorsque nous continuons à lire le livre de Ruth, nous voyons qu'en réalité, eh bien, Dieu est un Dieu d'espoir, puisqu'il va relever cette situation ô combien difficile. Mais lorsque je lis ce passage, je me rappelle qu'il a été écrit au moment des juges, au moment du livre des juges. Le livre des juges est une période extrêmement sombre de l'histoire du peuple d'Israël. C'était une période qui était qualifiée par une liberté, voire une anarchie totale, et qui générait toutes sortes de combats. On se souvient de Gédéon, cet homme qui pour récolter quelque peu, était obligé de travailler dans un pressoir. C'est une période terriblement sombre. Et pourtant, eh bien, il y a des éclairs. Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui vont trouver le bonheur. Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui vont connaître des choses. Et comment ne pas faire l'analogie avec notre société ? Société ô combien sombre, où il y a des drames qui se jouent, où il y a des difficultés qui se déroulent, où il y a des tempêtes, des combats, des catastrophes. Et pourtant, nous sommes les témoins qu'il y a des éclairs de temps en temps, tout simplement parce que des hommes et des femmes rencontrent Jésus, connaissent la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'Évangile. C'est que même au milieu des ténèbres les plus denses, même au milieu des difficultés les plus fortes, eh bien, il y a des étincelles. Ce sont les hommes et les femmes qui acceptent, eh bien, de rencontrer Jésus, qui acceptent de laisser Jésus rentrer dans leur vie. C'est extraordinaire de se dire que, eh bien, tout va changer pour cette femme, tout va changer pour Naomi. Pourtant, les choses avaient mal commencé. Son mari, il y a une famine dans le pays. Et là, son mari va prendre une décision, c'est de quitter Bethléem, la maison du pain. Avoir faim, c'est terrible. Avoir faim de bonheur. C'est terrible. Avoir faim de joie, c'est terrible. Avoir dans nos cœurs ce désir fou, ce manque inassouvi que l'on essaie de combler de mille et une manières. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai faim, je serais capable, eh bien, de remuer ciel et terre. Avec la liaison, c'est mieux. Ou sans la liaison, plutôt, c'est mieux. Lorsque j'ai envie de chocolat, chose qui m'arrive une fois par an, il faut absolument que j'arrive à trouver de chocolat. La faim nous fait faire des choses terribles. La faim du cœur de l'homme leur fait faire des choses terribles. Vous savez, on a beau être chrétien, qui que nous soyons, qui n'a pas eu cette tentation, comme Élimélec l'a eu, de quitter la maison du pain ? On jette bien souvent des pierres aux personnages de la Bible qui peuvent commettre des erreurs. Mais qui parmi nous n'a jamais eu cette pensée de quitter la maison du pain ? De dire, la foi c'est pour les faibles. La foi c'est, voilà, la foi j'en ai assez. Prier ça ne sert à rien, lire ma Bible ça ne sert à rien. Venir à l'église ça ne sert à rien. Qui n'a jamais eu la tentation de le faire ? Mais Élimélec va franchir le pas et peut-être parmi nous, quelqu'un a-t-il cette tentation de dire finalement, la foi, ça ne sert à rien. Et Élimélec va franchir le pas. Et il ne va pas simplement emmener avec lui sa propre vie, mais il va emmener avec lui sa femme et ses deux enfants. Faire des bêtises quand on est célibataire, c'est une chose. En faire quand on est marié, c'en est une autre. Ça, c'était la petite parenthèse. Plus la responsabilité est grande, plus notre vigilance doit l'être également. Et je dirais plus notre foi en la grâce de Dieu doit l'être. Et là, Élimélec, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des lieux géographiques qui sont attachés à son nom. Et en introduction, j'aimerais juste les souligner rapidement. Élimélec, il ne va pas simplement quitter un territoire, mais il va quitter ce que l'on appelle des positions spirituelles. Premièrement, Élimélec, il venait de Bethléem, donc de la maison du pain. Il va quitter là le lieu où l'on est nourri, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Il va quitter le lieu où, qui symbolise la relation avec Dieu. La ville où est né le grain de blé, où naîtra le grain de blé. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et lorsque l'on quitte la maison du pain, lorsque l'on quitte la maison de la parole de Dieu, alors on quitte les conseils qui y sont attachés. Élimélec, ne pars pas! Élimélec, ne quitte pas! Sinon, ta vie sera une catastrophe. Et, à contrario, parce que tout simplement, nous avons besoin de conseils. Êtes-vous capable de vivre sans conseils? Pendant 16 ans de ma vie, j'ai vécu sans conseils. Et le seul conseil que j'avais, c'était la violence, c'était la haine, c'était la rancœur qu'il y avait dans mon cœur. Le seul conseil que j'avais, c'était les sentiments qui me guidaient. Et ces conseils-là avaient comme résultat, eh bien, toutes sortes de mal autour de moi, toutes sortes de blessures en moi. Et combien d'hommes et de femmes, eh bien, parmi nous, pourraient dire, chaque fois que je n'ai pas écouté la parole de Dieu, alors j'ai blessé, alors j'ai fait du mal. Élimélec, ne pars pas! Ne quitte pas la maison du pain, ne quitte pas la maison où tu es conseillé, ne quitte pas le lieu où tu es cadré. C'est dur d'être cadré. Hein. Vous aimez ça, vous? Quand ma femme me cadre, j'aime pas ça. Hein. Ou c'est le contraire, je sais pas. C'est dur. Ne pars pas, Élimélec. Il quitte la maison où il est nourri, mais également la maison où il est cadré. Deuxièmement, ils viennent d'Ephrata. Ephrata, ça nous parle de fécondité. Vous savez que vous êtes fait pour produire. C'est un phénomène naturel. Dans le livre de la Genèse, Dieu va bénir sa création en disant « Soyez féconds », en parlant des animaux. « Multipliez et remplissez les eaux ». Le principe de fécondité est là. Élimélec, si jamais tu pars, tu ne produiras rien. Et effectivement, lorsqu'on lit la suite du récit, il n'y aura plus d'enfants. Et ceux qu'il avait, il les perdra. C'est l'image du sarment qui est coupé du cep. Notre vie ne peut produire des choses qu'à partir du moment où nous sommes attachés sur le cep. Ou alors si, nous produirons, puisque le phénomène naturel est en nous. Mais que produirons-nous? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, parle de fruits qui nous font rougir. Allez, petit effort de mémoire. Quels sont les fruits que tu portais avant de te convertir? Non, là, je vois bien dans vos yeux que vous ne réfléchissez pas. Je le vois, vous avez les yeux de vache qui regardent passer un train. Non, vous ne réfléchissez pas. Réfléchissez, je veux voir de la vie dans vos yeux. Enfin, dans ceux d'Alnour, parce que c'est ceux que j'ai le plus près. Hein. C'était quoi nos vies avant? On produisait effectivement. Mais que produisait-on? Je ne dis pas que ce que l'on produit aujourd'hui est toujours parfait. Mais que produisait-on? Troisième chose, il quitte Judas. Judas, ça signifie que Dieu soit loué. quitter le terrain de la louange. C'est lorsque l'on loue Dieu, coutume de dire qu'on met Dieu au-dessus de nos difficultés. On connaît bien ce psaume qui dit que bien, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Dieu est au-dessus. Et il quitte. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces difficultés sont au-dessus de Dieu. Quatrième point, quatrième chose qu'il quitte, c'est lié à son nom, c'est lié à son identité. Élimélec, ça signifie l'Éternel est roi. C'est difficile de porter un tel nom. Hein. Et pourtant, tout chrétien le porte à partir du moment où il s'engage à suivre Jésus. Rapport de soumission. Je suis soumis à mon Dieu, c'est lui qui décide. Ah, ça on n'aime pas. C'est encore pire que quand c'est notre femme qui nous cadre. On déteste ça. Élimélec va agir selon sa volonté, selon sa pensée, selon sa manière de faire, selon, j'allais dire, l'urgence du moment. L'urgence du moment. Et il va se tromper. Et ça va générer plusieurs résultats dans la vie de sa femme, Naomi. Et je tiens, avant d'attaquer le développement, à dire que, tout simplement, Naomi n'a fait que suivre, n'a fait qu'être entraînée dans cette histoire-là. Bien souvent, on jette l'opprobre sur elle, mais elle n'a fait que suivre son mari. Peut-être a-t-elle essayé, dans l'intimité, la chambre à coucher, de lui dire « Non, Élimélec, il ne faut pas qu'on parte. » Mais Élimélec a pris la décision d'eux. Mon ami, mon frère, et je vais peut-être m'adresser à quelqu'un de manière plus spécifique. Tu subis les horreurs d'autrui. Ou alors tu as été entraîné par la vie. Tu as été poussé par la vie. Il y a des choses, il est faux de penser que l'on peut tout maîtriser dans notre vie. Il est faux de penser que l'on peut interagir sur tout. C'est simpliste. Tout simplement, et la Bible ne dit pas ça, n'affirme pas ça, mais la Bible affirme qu'en nous, il y a une loi. Ne serait-ce que pour ça, il y a une loi qui est plus forte que notre propre volonté, c'est la voie du péché, qui nous pousse à faire le mal. Paul le dira, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais. On n'est pas forcément libre, on est entraîné, tout simplement parce que la société nous pousse dans des torrents, tout simplement parce que les personnes à côté de qui on vit nous poussent dans les torrents, tout simplement parce qu'à certains moments, on n'a pas cette capacité, on est encore des enfants, on n'a pas cette capacité à dire non. La vie nous pousse, la vie nous entraîne, et on est entraîné comme Naomi a pu être entraînée. Non, nous n'avons pas toujours le choix. Non, nous n'avons pas toujours le choix. Hier, on a épousé une femme que l'on aimait, puis qui, eh bien, tout d'un coup, eh bien, j'allais dire, vit une période difficile, elle nous y entraîne. On a eu des enfants que l'on a aimés de tout notre cœur et qui ont été mignons comme tout jusqu'à l'âge de 8 ans et qui, à partir de l'âge de 9 ans, deviennent infernaux. Est-ce que c'est notre faute? Non. Ou pas que. Et pourtant, on est entraîné dans les sentiments que je vais énoncer tout à l'heure. Alors, que faire? Eh bien, tout simplement faire comme Naomi, revenir dans la maison du pain, revenir dans l'intimité de Dieu, revenir auprès de Dieu et se dire que le Dieu, eh bien, qui nous a accompagnés pendant des années et des années, il reste et il demeure fidèle et que lui est capable de changer les choses. Dieu va changer la vie de Naomi, Dieu va transformer la vie de Naomi, Dieu va changer cette femme qui revenait avec un cœur plein d'amertume, qui voulait s'appeler Mara, en une femme à nouveau joyeuse. Parce que Dieu change le mal en bien, Dieu incline le cours des fleuves, Dieu transforme, Dieu bouleverse. C'est en ça que nous croyons, c'est ça que nous décrit l'Évangile, c'est ça que nous décrit la parole de Dieu. Ce n'est pas un Dieu assis sur le rebord du monde qui ne fait rien, mais c'est un Dieu qui agit chaque jour, à chaque instant, même lorsque le courant nous entraîne dans des fleuves contraires, dans des directions contraires à notre propre volonté. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a paru afin de mettre dans notre vie une volonté autre que celle du péché, qui s'appelle la volonté de l'Esprit. Et planter en nous le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Qui est la joie, qui est la paix, la maîtrise de soi. Oh, fabuleux ça. Oh Seigneur, la bonté. Ce sont des choses qui nous changent. Dieu est celui qui change et qui transforme.
premier sentiment avec lequel Naomi ou Noémie, dépend des versions, revient, c'est l'affliction. Elle dira, je suis dans une grande affliction. La définition de l'affliction, c'est la suivante d'après le dictionnaire. Peine profonde, abattement à la suite d'un grave revers. On rêve. Qui parmi nous n'a pas rêvé ? Et tout d'un coup, le rêve s'effondre. Et on prend comme un building sur la tête. Entre parenthèses, tout simplement, parce que bien souvent, notre orgueil est quelque peu touché. Et je pense qu'il y a un lien, parfois, plus ou moins ténu, entre l'affliction et notre ego. Mais ça, je ferme la parenthèse, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis que pasteur. Mais l'affliction. Naomi avait rêvé d'autre chose, ou du moins Elimelech avait rêvé d'autre chose. Avait construit sa vie d'une manière différente, avec un rêve différent. Ce n'est pas simplement de la tristesse due aux circonstances, mais il y a une remise en cause de soi-même. Ou beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais juste parler d'un homme qui a été dans l'affliction, c'est le prophète Samuel. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui m'a fait souvent du bien. Samuel a oint Saül, le roi qui deviendra apostate. Et là, on retrouve cet homme de Dieu remarquable, dans sa maison, avec ce commandement de la part de Dieu, en train de pleurer sur Saül, avec ce commandement de la part de Dieu. « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Tout comme Naomi, tout comme Samuel, on a pu rêver. Et le rêve s'est effondré. Et notre réaction, tout comme eux, c'est soit comme Naomi de se réfugier dans l'amertume, soit comme Samuel de se recroqueviller dans sa maison. Mais qu'est-ce que dit Dieu à Samuel ? J'ai un nouveau rêve pour toi. Saül, c'était le rêve de Dieu. J'aime pas ce terme de rêve, allez, on va dire c'était le projet de Dieu. Mais Saül a refusé d'y rentrer. C'est son choix. Il a été prévenu. Mais il a refusé d'y rentrer. Ça pourra faire l'objet d'une autre réflexion, mais parfois, pour rentrer dans le plan de Dieu, il n'y a pas que nous. Mais il y a des éléments extérieurs qui font que, je ferme la parenthèse. Mais Dieu a généré un autre rêve. Pour Naomi, Dieu a donné une autre famille, en la personne de Ruth, et plus tard de Boaz, et plus tard de Jésus. Puisque Ruth est dans la postérité de Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, quel que soit le rêve que tu aies pu avoir, quel que soit le projet que tu aies pu avoir et qui a peut-être avorté, sache une chose, c'est que Dieu en a un autre. C'est que Dieu a autre chose derrière. Et que même dans la situation qui est la tienne, même si tu es passé à côté d'eux, sache une chose, c'est que Dieu a quelque chose derrière. Il n'est jamais pris au dépourvu. Tu as essuyé un revers, plus ou moins long. Dieu a autre chose derrière. Parce que Dieu change le mal en bien. Serre-le dans ton cœur, serre-le dans ton âme. Et reprends pied en disant, Seigneur, ok, ça marche. Là, ça ne s'est pas goupillé comme je voulais. Je ne sais pas pourquoi, et Samuel ne savait pas pourquoi. Il devait en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Si jamais j'avais été plus avec lui, si jamais je ne l'avais pas lâché, si jamais j'avais fait ci, si jamais j'avais fait ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous, quand vous vous plantez ? Et puis quand les autres se plantent, c'est encore pire. Voilà, n'en parlez pas. C'est ma vie. Tous les si n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu qui nous réouvre d'autres portes, qui nous réouvre d'autres projets, qui nous réouvre d'autres choses. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte.
Deuxième sentiment que Naomi va voir, c'est la privation. 1:5, Naomi reste à priver d'eux. Élimélec voulait pour sa femme beaucoup. Elle voulait que sa famille ait du pain à manger. Il n'a pas su patienter parce que 6 versets plus tard, ce qui correspond environ à 10 ans, il a appris, ou Naomi a appris que... Comme quoi, c'est rigolo, j'utilise ça juste pour dire que les notions, les dates, les fréquences de temps sont quand même assez différentes dans la Bible de notre imagination. Enfin bref, je me suis compris. C'est l'essentiel. C'est pas comme si je parlais pour vous. Alors, Élimélec voulait le meilleur, et finalement il aura le pire. Vous savez, tout simplement parce que la règle du royaume de Dieu, c'est que pour avoir, il faut bien souvent perdre. Et que parfois, rester dans ces positions spirituelles, rester dans les cadres fixés par Dieu, c'est pour nous comme une perte. Quand j'étais gamin, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, j'allais en vacances dans les Pyrénées avec mes parents. Et pendant 2 ans, j'avais comme fonction de garder les vaches avec le berger. Et alors, donc, on se baillait dans la montagne et puis je le voyais souvent en train de recadrer ses vaches, etc., toujours au même endroit. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Il me dit, parce que tout simplement, là, il y a un grand champ de luzerne des deux côtés et que si jamais elles vont brouter de la luzerne, eh ben, elles vont avoir de l'aérophagie, etc., elles vont tomber malades et je vais être embêté. Et puis, c'est pas bon pour elles. Ah. Ça n'a rien à voir avec mon métier de pasteur aujourd'hui. Parfois, il faut se priver de luzerne. Et il faut accepter de n'avoir que du pain. Je prolonge ma pensée. Élimélec n'avait plus de pain. Ok. Mais nous, parfois, nous pouvons n'avoir que du pain. C'est-à-dire que la parole de Dieu. Mais on voudrait tellement, on voudrait un petit peu de luzerne. La luzerne, oh, je vais peut-être tordre un peu les choses, mais c'est un peu de surnaturel. Je réfléchissais à quelques-uns. Élie, lorsqu'il a eu sa dépression, qu'est-ce qu'il a relevé ? Est-ce que c'est l'apparition de l'ange ? Non, c'est le gâteau. Et lorsque vous lisez dans la version Semeur, c'est un de ces gâteaux qui cuisait habituellement sur des pierres. Donc c'est quelque chose qu'Élie connaissait. C'est ça qu'il a relevé. Nous, on pense que c'est la luzerne qui va nous relever. C'est-à-dire l'intervention d'un ange. Mais je ne sais pas, moi, j'aurais eu un ange qui serait venu me taper sur l'épaule en me disant « Olivier, relève-toi, c'est bon, ça va aller mieux. » Je ne sais pas, moi, ça m'aurait suffi peut-être. Mais Élie, non. Ce qu'il lui fallait, c'était la parole de Dieu. La luzerne, ça peut être de l'ambiance. Il faut qu'il y ait du bruit, voilà. Non, c'est pas ça qui relève. La luzerne, ça peut être les bonheurs du monde. Une bonne fête. Un petit peu d'alcool, éventuellement, juste pour pimenter la vie chrétienne. Vous savez, juste pour mettre un peu de confiture sur le pain. Élimélec, tu aurais dû te contenter de ce que tu avais, avec foi, plutôt que de partir. À vouloir trop avoir, tu as perdu. Mon frère, ma sœur, quand l'apôtre Pierre dit que le contentement et la piété sont une grande source de gain, c'est la vérité. Parce que à vouloir, eh bien, ne pas se contenter de ce que l'on a,
on finit par perdre. Regardez dans votre foyer, si vous ne vous contentez pas de votre budget, qu'est-ce que vous faites? Vous vous endettez. Et vous finissez par perdre votre maison. C'est peut-être simpliste. Pourtant, c'est la vérité. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. J'aime beaucoup quand l'apôtre Paul dit que j'ai appris à vivre, ou plutôt je sais vivre, dans la disette, etc., dans la richesse. Et plus loin, il dit parce que je l'ai appris. Élimélec. Et regardez Ruth, en parallèle, elle s'est attachée à sa belle-mère, ce qui est un miracle en soi. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et là, elle va perdre sa famille, elle va perdre sa culture, elle va perdre son pays. Mais elle va gagner ce qui est pour une femme tout à fait extraordinaire, comme pour un homme, elle va gagner l'amour en retour, puisqu'elle va rencontrer, eh bien, Boaz. Dieu reconstruit, mais il faut accepter de se séparer. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de rester peut-être sur du court terme, sur des positions qui nous déplaisent, et où l'on n'a pas tout ce que l'on souhaiterait avoir. On ne peut pas avoir la bénédiction sur eBay ou sur Amazon. Mais tout simplement, on est sûr que le Dieu de la bénédiction est avec nous et que nous avons dans le ciel un Père qui prendra soin de nous, un Papa divin qui prendra soin de nous, quelqu'un eh bien, qui nous aime, quel tendre Père qui ne nous maltraitera jamais, mais qui toujours eh bien, saura intervenir. La preuve, c'est que Dieu est intervenu eh bien, en faveur de son peuple. Je vais m'arrêter là parce que le temps est écoulé. En conclusion, Naomi va revenir avec de l'amertume dans son cœur. L'amertume, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que ça produit des racines, nous dit l'auteur aux Hébreux. Être amer. On voit la vie tout en noir. Naomi va être transformée, pourquoi pas nous? Tu es dans l'affliction, mon frère, ma sœur, mon ami. Tu as vécu un échec qui, quelque part, t'a marqué profondément. Aie confiance en Dieu. Reviens dans la maison du pain, reviens nourrir ton âme, reviens de là où tu es parti, reviens là où tu aurais toujours dû être finalement. Reviens dans cet endroit où on t'enseigne, là, dans cet endroit où le Saint-Esprit peut travailler ton cœur, peut mettre des garde-fous auprès de ta vie. Deuxième point, tu as vécu un échec, c'est pas grave. Tous les grands hommes de Dieu ont connu des échecs. Tous. Je choque même de vous dire, même Jésus a commis des échecs, au sens humain du terme, au sens de nos propres analyses. Ça vous choque ou pas? Réfléchissez. Je ne sais pas, moi je serais à votre place, mon pasteur me dirait ça, ça me choquerait. Lorsqu'il a témoigné au jeune homme riche et que ce jeune homme va repartir tout triste. Tout riche et tout triste. Jésus va connaître un échec. Est-ce que cela va le freiner dans sa mission? Non. C'est mon analyse, vous n'êtes pas d'accord avec, vous pouvez. Nos problèmes, nos échecs ne sont pas un souci pour Dieu. Il est Dieu pour ça. Comme un père ramasse les pots cassés de ses enfants, ou combien souvent, à combien plus forte raison, Dieu le fera pour nous. Troisième point de la conclusion. Attendez, j'ai le micro. Hein. Peu importe si nous avons connu des blessures et des souffrances. Naomi en a connu. Peu importe là où la vie nous a entraîné la coquille de noix que nous sommes. Vous savez, les fleuves qui nous font baloter, là, d'un droite à gauche, sur les cailloux à droite. Et on en ressort avec plein de blessures. J'ai l'habitude de vous dire que je suis un chat de gouttière. Tellement j'ai pris de coups. J'en ai donné un peu aussi. Mais Dieu a cicatrisé. Dieu a cicatrisé. Dieu a refermé les blessures. Alors que son nom soit béni, ne quittons pas nos positions spirituelles et si nous les avons quittées, revenons-y. Amen.